Donc aujourd'hui, on travaille sur l'agir moral. En fait, on a ce cours-ci qui est sur l'agir moral, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on peut agir moralement. Et la fois prochaine, on regardera plus le comment et qu'est-ce que ça veut dire et le contenu. Voilà. Donc là, on est vraiment sur le cadre et sur le. Et donc, c'est beaucoup autour de la notion de liberté. Voilà. Donc, on peut rêver et croire que l'homme est capable d'un choix serein entre un bien et un mal clairement identifié, qui serait mis sous ses yeux comme deux hypothèses s'offrant à lui. Et à la suite de quoi, il choisirait le bien et le ferait. En fait, ce n'est pas du tout notre expérience. Et je pense que notre expérience, elle est beaucoup plus réaliste que ça. C'est qu'en fait, on ne. Bonsoir. Ce dont on fait l'expérience, c'est plutôt que, un, on n'est pas très précis sur ce qu'est le bien. Et donc, on verra la phrase de saint Paul, je fais le mal que je ne souhaite pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je souhaiterais faire. Donc, il y a quelque chose autour du discernement du bien et du mal qui n'est pas ajusté. Et puis, on a un attrait incompréhensible pour ce qui nous détruit, qu'on fait les addictions, etc., où on a l'impression qu'on s'enferme volontairement, et parfois en le sachant quand même un peu quoi. Voilà. Donc, il y a une vraie incompréhensibilité à ça. Et puis, quelque part, bah, c'est le reflet de l'inconstance de notre volonté, voilà, qui finalement a du mal à rester droit dans le but. Voilà. Donc, ça, c'est notre expérience. Et donc, l'optimisme de Platon qui dit nul n'est méchant volontairement. Bah en fait, ça vaut vraiment que pour un homme idéal. Voilà, dès qu'on est confronté au mal, à la souffrance, à la vraie vie, en fait, on n'est pas exactement comme ça. Et on sait qu'on est capable d'être méchant. Voilà. Alors, à contrario, enfin, à contrario, non, en parallèle, à côté, l'homme est le seul être vivant qui peut se repentir, c'est-à-dire, en fait, reconsidérer son comportement, ses actions, et trouver qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Revisiter, finalement, ce qu'il a fait. Et du coup, réorienter ce qu'il va faire. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'homme, enfin, de l'homme être humain. Voilà, donc Dieu a créé l'homme pour le bien et libre. Mais du coup, on peut se demander si après le péché, c'est toujours possible. Et puis, quelle est cette liberté dont on parle? Est-ce qu'elle n'est pas écrasée par la volonté de Dieu? Est-ce qu'elle est vraiment. C'est quoi cette liberté, en fait? Et puis, sur l'agir moralement, est-ce que du coup on est juste intéressé en disant ben, on sera récompensé si on agit bien, ou est-ce qu'on sera culpabilisé si on agit mal, ou bien est-ce que c'est au-delà de ça un chemin de bonheur vers Dieu? Voilà, donc c'est un peu les trois thématiques qu'on va aborder. Alors d'abord, c'est Dieu a donné à l'homme la faculté de discerner et d'agir moralement. Donc on parle d'un animal éthique, au sens large du terme, hein, éthique. Voilà, qui est capable de poser un comportement par rapport à une idée de ce qui est bien ou ce qui n'est pas. Et donc ça, on l'a dès le début de la Genèse, où finalement, par rapport aux animaux, il y a des questions qui sont posées à l'homme, il a des actions à faire et il a des choses à poser. Voilà. Donc là, il y a une intention divine. Qu'on retrouve dans le Sirac, Siracide. Il leur forma une bouche, une langue, des yeux, des oreilles. Il leur donna un cœur pour penser. Il les remplit de science et d'intelligence et leur fit connaître le bien et le mal. Donc ça, c'est là un peu le descriptif de ce qu'est l'homme. Donc finalement, la supériorité de l'homme, elle consiste pas du tout dans son équipement, ses capacités naturelles, sa force physique, son instinct, etc., ni même son intelligence pratique, mais dans cette ouverture qu'il manifeste à l'invitation que Dieu lui adresse. Et finalement, on en revient toujours à la Genèse dans ses cours. Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. On est vraiment au tout début de la Genèse. Et on a cette distinction entre les deux arbres, ce qui est très intéressant parce que ce n'est pas juste un arbre de vie, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est vraiment innovant dans la Bible par rapport à tous les mythes environnants, ce deux arbres. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'il nous dit qu'en fait le désir de vivre éternellement, donc ce qu'incarne l'arbre de vie, est conditionné par la rencontre du commandement, c'est-à-dire l'ajustement à la volonté d'un Dieu sage et bon, et donc quelque part la capacité de discerner, mais qui n'est pas une capacité tout seul dans son coin, mais qui est en lien avec Dieu et en restant connecté à Dieu. Voilà, donc la vie durable et éternelle n'est possible que si le rapport au bien et au mal, c'est-à-dire à Dieu finalement, est juste. Et donc l'interdit de Dieu dans la Genèse, en fait, c'est l'envers d'une très large permission, puisqu'ils ont le droit de manger tous les arbres, tous les jardins, de tout le jardin, sauf celui-là. Et il suppose un climat de confiance. Et c'est probablement une restriction dans le cadre d'un don futur. Donc voilà, on n'a pas dit qu'il est éternellement, ils n'auront jamais accès à ça. C'est un interdit qui est posé pour un instant à un instant T. Et donc là, ce que nous montre la jeunesse, c'est que l'interdit, en fait, il permet de grandir. Et c'est une étape vers l'âge de raison au sens large du terme. On sait très bien que les interdits, enfin, quand on éduque des enfants, ça permet de poser des limites et donc de grandir aussi voilà. Et ça ne marche bien que s'il y a cette relation de confiance. Effectivement, si on a une relation de défiance, ben, en fait, c'est l'envers qui se passe, c'est-à-dire qu'au contraire, l'interdit, du coup, est détruit, quoi, plutôt que construit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'autre bout de la Bible, dans l'Apocalypse, ben, en fait, on peut manger de tous les fruits de l'arbre de vie. Et donc, on a à la Jérusalem céleste, donc après, à l'aboutissement du salut, on a les fruits de l'arbre de vie qui sont pour tout. Et donc, au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Et donc, on a cet aboutissement qui est qu'on voit bien que, in fine, ce n'est pas une question de juste Dieu se réserve ce droit-là. C'est pour le faire partager, mais il y a un cheminement et des choses à faire. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est donc on est animal éthique. Après, le deuxième aspect, c'est même après le péché, en fait, Dieu ne renie pas son projet sur l'homme. Donc, le péché, il a cassé quelque part cette liberté à faire le bien. On voit que l'enfant, encore enfant, s'est laissé égarer, c'est ce que dit saint Irénée. Le péché d'orgueil a entraîné Adam à se croire autosuffisant. Et depuis, l'homme est incapable de poser un choix véritablement moral sans la grâce. Donc, on a une incapacité à agir vraiment moralement. La liberté, elle est captive de l'homme pécheur, qui commande à son corps, mais ne commande même pas à son âme. Donc il y a un dysfonctionnement dans la façon dont on se maîtrise et dont on agit. Ça, c'est saint Augustin. Et Pierre Lombard nous dit, par le péché des origines, l'homme a été frustré des biens surnaturels, mais aussi blessé dans ses capacités naturelles. Donc il y a non seulement pas le devenir, mais il y a aussi quelque chose de ce qu'on avait en données de base qui est blessé. Voilà, on le voit aussi dans le thème où ils ont conscience, après le péché d'Adam et Ève, ils ont conscience d'être nus. Et c'est aussi ce côté désarmé, donc voilà, quelque chose de notre capacité naturelle qui est plus ajustée. Donc pourtant, Dieu, il ne change pas de volonté selon les circonstances, et donc il ne renie pas son dessein premier. Mais du coup, il tient compte de l'homme qui se construit dans le temps. Donc le temps, il est de notre côté, du côté de Dieu. Et du coup, il chemine avec l'homme qui, lui, pose des choses et évolue d'une certaine façon. Donc, il ne renie pas son projet, mais il les réajuste en permanence en fonction de... Alors, en permanence, c'est un mauvais terme parce qu'il est au-delà du temps, mais il réajuste quand même. Il y a quelque chose de natation à ce que nous, on fait. Et la façon dont Dieu se positionne, en fait, il nous traite toujours en partenaire responsable. C'est pour ça qu'il y a tous les thèmes d'alliance dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà, il n'arrête pas de vouloir recréer l'alliance et de la proposer, et dans des contextes un peu différents, que ce soit avec Abraham, c'est encore différent de Moïse, et c'est encore différent avec Jésus. Voilà, donc il nous considère comme quelqu'un de responsable. Il s'adresse à nous, donc il nous fait connaître sa volonté. Et donc, il fait appel à notre raison pour pouvoir comprendre son projet sur nous. Voilà, il le met face à ses responsabilités. Donc, il fait confiance à l'intelligence humaine, même si l'intelligence aussi est blessée par le péché, et donc plus complètement opérationnelle. Voilà, et puis il y a les lois pour le guider, etc. Donc, il y a tout cet accompagnement de Dieu qui ne change pas de volonté, mais qui nous accompagne. Alors, pour saint Paul... il a aussi beaucoup parlé sur la liberté. Pour lui, justement, la règle morale et les lois et les commandements moraux, en fait, c'est important parce que c'est finalement sur ce sur quoi les chrétiens seront jugés, c'est sur ce qu'ils agissent aussi, c'est sur ce qu'ils font. Et donc, le comportement, l'agir moral est lié à nos actes. Et donc, il passe son temps à rappeler le décalogue et... quelque part, conscient que notre volonté, elle est faible et qu'on est incapable d'agir bien par nos propres forces, bah, quelque part, la loi, c'est une manière d'avancer. Et puis après, il y aura Jésus aussi. Donc, il est très juif en ce sens-là. Voilà. Et la nouveauté chrétienne, c'est ça. C'est à la fois, il y a un don gratuit et une exigence brûlante. Et en même temps... on a notre propre liberté, notre agir, et finalement, c'est nous qui posons nos actes. Voilà, donc l'indicatif baptismale qui pourrait nous donner une injonction et quelque part nous déterminer d'une certaine façon, ben en fait, il n'enlève rien à l'impératif moral qui est notre volonté, qu'est-ce que nous, on doit faire. Alors après, je voudrais aborder le thème de la conscience. La conscience est un thème qui est pas mal abordé, notamment avec le personnage de David. On voit qu'il a conscience du mal qu'il fait. Quand il a recensé tout le peuple, à l'impression de se donner son pouvoir, de combien de personnes j'ai dans mon royaume, il sent bien que c'est pas bien une bonne idée, en fait, ce qu'il a fait. C'était peut-être pratique, mais son intention n'était pas tout à fait droite. Et donc, il a bien conscience de ça. Donc, on voit qu'il y a ces choses où David, il a son cœur qui bat très fort aussi quand il est prêt à porter la main sur Saül, etc. Donc, on voit bien qu'il a une conscience de quelque chose et ça s'exprime physiquement, en fait, chez lui. Voilà. Bon, par contre, on voit aussi que de temps en temps, il n'y arrive pas et qu'il a fallu que ce soit le prophète qui lui dise qui lui a fait tout un tableau de quelqu'un qui avait piqué la chèvre de son voisin alors qu'il n'en avait qu'une. Et David dit, mais c'est incroyable, etc. Alors qu'en fait, il parlait de lui et qui avait piqué la femme de Hori, le Hittite. Voilà. Je ne sais pas, le terme piqué n'est pas tout à fait adapté, mais bon, c'est pas grave. Je m'en voudrais pas. Alors, saint Paul fait une place particulière à cette notion de conscience qui est synédésis, donc c'est le mot grec. Et non pas 8, donc 18 occurrences, qui est quand même pas mal, même si saint Paul a beaucoup écrit. Et pour lui, c'est vraiment l'instance ultime du jugement moral. Elle n'est pas infaillible, mais elle doit être éclairée par la loi divine. Elle peut être la bonne instance. Voilà. Et donc, tout homme, par sa naissance, est doté d'une appréciation innée du bien et du mal. Et là, il y a tout un texte dans Romains sur cette notion. Quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. Et donc, ils sont inexcusables, ajoute saint Paul. Et donc, il y a cette idée que, voilà, même sans être du peuple de Dieu, même sans connaître Dieu, ben, on a quelque chose de la conscience qui fait qu'on peut quand même être éclairé. Et donc, quelque part, on est inexcusable, puisqu'on nous a, Dieu nous a donné les moyens quand même de connaître sa volonté, ou en tout cas une certaine partie, et notamment de pouvoir éviter les désordres moraux, en tout cas de les voir et de les anticiper. Saint Thomas d'Aquin a beaucoup, pour lui, la conscience, donc il appelle Saint Dérès, donc c'est plus ou moins, je sais pas, c'est d'autres mots, alors bon, je ne sais pas les origines, hein, je ne suis pas très du tout bonne en linguistique, aux plus hautes facultés de l'âme, donc pour lui c'est vraiment la fine pointe, le premier principe, qui incline au bien et murmure contre le mal, et donc qui est quelque part la survivance de l'homme avant le péché originel, qui continue à nous éclairer, même aujourd'hui. Newman y replace, lui, la conscience au cœur de l'action morale comme la plus proche instance qui nous répercute la loi divine. Donc il y a cette connexion qui est la conscience en nous, finalement, c'est aussi cet écho de la loi divine. Et donc la conscience est la trace en l'homme de son ordination au bien, c'est-à-dire en définitive de son ordination à Dieu. Elle est la voix divine au fond du cœur de l'homme, elle est constitutive de son humanité. Elle n'est pas rajoutée, elle est bien quelque chose qui est de notre nature humaine. Et elle est en rapport étroit avec la foi, puisqu'évidemment, avec la foi, pour le coup, elle peut être démultipliée, elle peut être entendue, et elle peut du coup être d'autant plus utile ou efficiente. Voilà, par contre, tous ces auteurs-là, ils sont bien conscients que la conscience, elle n'est pas autonome, et elle peut être égarée. Saint Paul dans 1 Corinthiens nous dit « Ma conscience ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifiée pour autant, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on croit, en fait, enfin, de ce qu'on croit au sens de ce qu'on pense être la bonne conscience. Et puis, Jésus nous parle de la lampe du corps qui est l'œil et qui a un peu cette idée de conscience. Si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière, mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles sont grandes les ténèbres. » Donc là, ce que nous dit Jésus, c'est finalement... Alors l'œil, c'est aussi le contact avec l'extérieur, hein, donc c'est aussi le discernement sur ce qui se passe et ce qui est en rapport avec les relations. Et donc la lampe du corps, c'est cette conscience. Et si elle est éclairée et dans la lumière, quelque part, bah, du coup, elle peut être vraiment efficace et c'est de la vraie lumière. Par contre, si elle est enténébrée, bah, là, c'est vraiment très, très ténébreux. Voilà. Donc la conscience demande à être éclairée, même si on a une perception innée du bien. Et on le voit parce qu'il y a quelquefois, c'est des personnes qui sont voilà, retenues sur, au moment de commettre une folie, quelque chose de très, très mal, y a comme un, voilà, une prise de conscience et quelque chose qui les retient. Donc, on voit que ça agit même dans des cas extrêmes. Mais par contre, elles demandent à être éduquées, libérées de l'influence des habitudes, de la pression de l'opinion, de la dictature des instincts, et j'en passais des meilleurs. Et donc, il faut la sortir du sommeil en lui donnant l'appétit du bien et surtout en, bah, finalement, en étudiant la révélation. Parce que c'est là qu'on peut découvrir de plus en plus et l'éduquer pour décerner ce qui est bien et lui donner la lumière. Donc on est invité à prendre nos décisions en conscience. Je pense que ça, c'est très important. Et même quand la conscience est obscurcie et qu'elle ne discerne pas bien et qu'elle n'est pas un bon guide, l'Église nous dit de suivre quand même sa conscience. Parce que quelque part, c'est quand même l'instance qui est là et que c'est là où on a une personne. Et donc, c'est notre propre jugement qui est en cause. Et donc, on a un devoir de l'éduquer, mais on ne peut pas contraindre la conscience. Donc, si c'est contraire à ce qu'on pense être notre conscience, bah, il vaut mieux ne pas le faire. Voilà. Donc, même si on a l'impression qu'on nous l'impose ou choses comme ça, en fait, on doit vraiment suivre la conscience. Par contre, on a ce devoir de l'éduquer et de faire qu'elle soit... qu'elle soit lumineuse. Alors, deuxième partie sur la liberté. Alors, je vous fais un petit passage par la philosophie Kant. Alors, Kant, il a posé la loi morale comme une nécessité de notre liberté, en parlant d'impératif catégorique, qui en fait est comme s'il y avait une action, donc l'action est juste, gratuite, désintéressée, inconditionnelle, donc comme si on avait quelque chose au fond de nous qui nous pousse à tu dois, voilà, tu dois faire ci, et tu dois faire ça, et tu dois agir. Voilà, donc on a quelque chose qui est un peu plus, voilà, qui nous pousse vers le bien, comme si on avait quelque chose au fond de nous, un ressort, alors quand il n'y met pas quelque chose de Dieu, mais quand même, il pose que l'acte gratuit est possible du fait même de la liberté humaine. Il donne deux formules à l'impératif catégorique de la loi morale, donc qui encadre finalement tout ce que pourrait être la loi morale. C'est le premier, c'est « agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature ». Et donc, c'est l'idée que si tu agis en pensant que ça pourrait être une loi universelle, bah, probablement que tu vas poser un acte qui est juste. Parce que si la vocation à être universelle, eh ben, ça va prendre en compte le fait que tu n'es pas en train d'embêter plein de monde et que ce n'est pas juste pour ton intérêt propre. Donc il y a cette idée-là. Et le deuxième impératif de Kant, c'est agis de telle sorte que tu traites l'humanité, donc chaque personne, comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Donc ça, c'est l'autre donnée, c'est que la personne ne peut pas être un moyen, elle est d'abord une fin, voilà. Et donc, la fin ne justifie pas les moyens quand les moyens sont des personnes, voilà. Pour Kant, du coup, le plus haut degré de liberté réside dans la soumission de l'arbitre à la loi, donc cette loi au sens loi de la raison, et cette loi au sens d'impératif catégorique, comme il dit, raisonnable, et qui est un penchant illimité à la liberté, voilà. Alors, cette conception de Kant, elle est quand même... D'abord, elle affleure un peu avec le déterminisme. Et puis, elle est quand même assez loin de la liberté proposée par Dieu qui se construit dans une relation. Voilà, elle est très auto-centrée, en fait. Et puis, elle méconnaît considérablement les conséquences du péché qui fait que, de toute façon, c'est blessé. Et voilà, les choses ne sont pas aussi simples que ça, quoi. Alors, ensuite, on a étudié une deuxième partie qui a été le nominalisme. Donc, dans l'Église et qui a conduit à une hérésie, enfin, ou des choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas catholiques. Donc l'idée, c'était de dire, finalement, la liberté divine, elle peut tout et son contraire. Dieu est tellement libre et tellement tout-puissant que, quoi qu'il puisse vouloir, en fait, ça doit s'imposer à nous. Et donc, finalement, il n'y a pas de... Donc, même si Dieu nous demandait un truc objectivement mauvais, bah, parce que c'est Dieu qui le demande, ce serait bien. Voilà. Donc là, on rejoint énormément des travers islamiques, voilà, exactement, avec cette idée que ça s'impose parce que Dieu le veut. Voilà. Alors, d'abord, c'est... Donc, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de morale naturelle, plus de conscience et de discernement. Plus drôle non plus de l'intelligence de l'homme, et donc on aurait quelque chose qui serait vraiment juste du droit positif. Une chose est à faire parce qu'elle est commandée, et c'est tout. Voilà. Et donc, ça, en soi-même, ça suffit. Voilà. Alors Luther, il a un peu aussi été dans cette idée-là, enfin, un peu, ouais, le même genre de thème, en séparant tout ce qui était la morale de toute référence à la nature, en disant que finalement, la parole de Dieu est la seule norme qui s'impose. C'est elle qui nous dévoile le péché, donc ce qui est bien et ce qui est mal. Et elle pulvérise toutes les auto-justifications que l'homme s'invente pour échapper à la condamnation. Et donc finalement, la liberté de l'homme avant la grâce, donc non, pas encore sauvé ou pas encore pas dans la Jérusalem céleste, bah finalement c'est un leurre. Donc il appelle ça un serf arbitre. Voilà, on n'est pas du tout, c'est pas du tout un libre arbitre. C'est voilà, on se condamne soi-même et parce qu'on est incapable finalement d'aller vers le bien. Et donc il dénie quelque part l'intelligence humaine ou la personne humaine la moindre parcelle de conscience de ce qui est bien. Donc il y a à la fois cette vision chez Luther de très très sombre de cette nature dégradée par le péché, et donc finalement qui est complètement impropre à même entendre les pensées divines. Et en même temps, il exalte, alors c'est un peu le paradoxe de Luther, il exalte la liberté chrétienne en disant bah, si on s'en remet complètement à la volonté de Dieu, donc si on ne fait que suivre Dieu, bah, comme c'est lui qui sait, du coup c'est bon. Sauf que bon, on voit bien qu'aussi ça c'est compliqué et que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Voilà. Donc l'Église catholique, elle a réagi fortement, évidemment, et elle souligne l'ancrage de la loi morale dans la nature humaine. Elle met en valeur qu'il y a une notion de progrès de la conscience morale, qu'elle peut être éclairée par l'enseignement de l'Église, et soutenue par une éducation de la volonté, et effectivement éclairée aussi par les sacrements, faire la volonté de Dieu. Mais qu'il y a une dynamique propre, personnelle de notre côté, du côté de l'humanité, pour avancer. Donc pour sortir de l'arbitraire de la loi, donc de cette idée de loi et d'agir moral qui s'imposerait à nous, en fait, il faut retrouver le lien d'origine entre l'homme et Dieu et l'analogie entre les perfections divines, donc ce qui est en Dieu, parfait, et notre perception du bien. Il faut tenir l'équilibre entre le Dieu et tout autre et son intelligence est inconnaissable, et c'est vrai, et en même temps, il nous donne de partager sa vie et il nous donne les moyens de partager sa vie. Donc du coup, les deux sont à tenir ensemble, et c'est toujours l'alliance des deux qui fait qu'on est ajusté et qu'on a une relation. Donc la volonté de Dieu, on va pas dire qu'elle est absolue au sens où elle s'impose à nous, un peu comme on a vu dans le nominalisme, voilà, elle dépasse pas quelque chose qui est complètement comme un bloc qui nous dépasse et qui s'impose à nous. Mais une volonté ordonnée, c'est-à-dire qu'elle nous explique comment ordonner les choses pour aller vers Dieu, en fait. Voilà. Mais on a des choses que nous, on peut comprendre aussi. Donc, évidemment, il ne faut pas non plus en déduire que Dieu est bon à notre manière et qu'il est comme la majuscule de tout ce qu'on pourrait faire de bien. Mais, quelque part, sa sainteté, sa justice, sa miséricorde, ils fondent réellement le bien qu'il nous demande de faire. Voilà. Et c'est vraiment la phrase « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Voilà. Et donc, on peut percevoir la volonté divine, on peut percevoir quelque chose de la façon dont Dieu voit les choses et discerne le bien et le mal, pour le faire nous aussi à notre tour. Alors, du coup, on en arrive à la loi naturelle. Donc, les exigences que Dieu, qui nous reboucle un petit peu avec la conscience quand même, mais bon, dans cette catégorie qui est plus la déclinaison des lois, les exigences que Dieu peut nous exprimer à travers sa révélation sur le mode d'emploi de notre humanité telle qu'il l'a conçue. Donc, c'est vrai que c'est auprès de lui, finalement, qu'on découvre comment on fonctionne et finalement quel est notre mode d'emploi. Il nous donne une participation à sa vision des choses et quelque part, comme si son dessein, sa volonté était transposé dans notre intelligence en loi naturelle. Et donc, la loi éternelle se reflète en loi naturelle qui est donc inscrite en nous et qui est quelque part notre bien commun. Alors, je vous ai mis un long passage de saint Thomas d'Aquin, qui est quand même très explicite, donc je vais prendre le temps de le lire et de le décoder. « Parmi tous les êtres, la créature raisonnable est soumise à la providence divine d'une manière plus excellente, alors par rapport à d'autres, aux animaux, etc., par le fait qu'elle participe elle-même de cette providence en pourvoyant à soi-même et aux autres. » Donc, elle est aussi participante dans le sens où elle doit faire le bien aussi. En cette créature, donc en l'homme, il y a donc une participation de la raison éternelle selon laquelle elle possède une inclinaison naturelle au mode d'agir et à la fin qui sont requis. Ça, c'est la participation de la loi éternelle qui, dans la créature raisonnable, est appelée loi naturelle. Donc là, on est bien dans la transposition et finalement, Dieu nous inscrit en nous la manière dont lui voit les choses et comment sa loi divine. Donc quand on dit dans le psaume, il dit « offrez un sacrifice de justice », il ajoutait « comme pour ceux qui demandaient quelles sont ses œuvres de justice, beaucoup disent qu'il nous montrera le bien, Et il leur donnait cette réponse. « Seigneur, nous avons la lumière de ta face imprimée en nous. » C'est-à-dire que la lumière de notre raison naturelle, nous faisant discerner ce qui est bien et ce qui est mal, n'est rien d'autre qu'une impression, au sens, comme sur le voile de Véronique, de la figure du Christ, en nous de la lumière divine. Il est donc évident que la loi naturelle n'est pas autre chose qu'une participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable. Donc pour saint Thomas, Dieu va jusqu'à nous inscrire en nous et nous donner finalement en nous sa loi divine pour qu'on puisse opérer et discerner le bien et le mal et du coup agir, parce que s'il ne suffit pas juste de discerner, il faut agir. Oui, bon, ça, après du coup il faut s'en référer à la loi divine, il faut remonter aussi d'un cran, parce que comme notre vision de la loi naturelle, elle peut être aussi mal discernée à cause de péché, il faut remonter souvent à la loi divine. Bon, mais ça c'est pas... Donc finalement, on a une liberté abîmée, mais qui demeure. Donc Dieu, on a une part de liberté. Donc on n'est pas des marionnettes et on n'est pas incapable d'agir correctement, d'agir moralement. Alors ce qui est intéressant, c'est que la liberté, c'est un point d'aboutissement, pardon, et non un point de départ. Donc ce qui donne dans l'expérience, c'est l'esclavage d'un vouloir nier. Donc ça, c'est la phrase de saint Paul. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Le vouloir est à ma portée, mais non le pouvoir de l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc là, il y a quelque part dans Romains, ce que nous dit saint Paul, c'est à la fois, on a du mal à faire le bien, et on a cette inclinaison penchant vers le mal, cette concupiscence qui fait qu'on a du mal à rester orienté vers le bien, même si on le voit et on aimerait le faire, donc on a aussi le désir. Et quelque part, c'est le péché en nous qui agit comme ça. Donc on reste libre, et donc si on arrive à se libérer du péché par la grâce, les sacrements, etc., on va pouvoir retrouver cette capacité de vouloir. Voilà, et on voit bien que l'inverse, c'est-à-dire que si on refuse d'exercer cette liberté que Dieu propose à l'homme, et qu'il veut faire grandir en lui, donc refuser de chercher le bien, de s'y tenir, et ben en fait on régresse et on est de moins en moins maître de nous-mêmes. Et voilà, et là on est de plus en plus dépendant de ses instincts, de ses craintes, victime des autres. Et donc on n'a pas cette liberté finalement qui devient tout encrassée. C'est un peu comme un aimant, plus on se rapproche de la partie féroce, bah plus on va pouvoir être aimanté et attiré et donc aller dans le bon sens. Et plus on s'éloigne de l'aimant, plus on est plus attiré et donc on erre un peu et on peut aller vers d'autres choses. Donc d'où il faut restaurer notre marge de liberté en remettant notre volonté dans le bon vouloir. Saint Augustin aussi a parlé quand il a lutté contre les manichéens en insistant sur la liberté humaine, donc en niant le fait, les manichéens, ils croient qu'il y a le bien et le mal, que ça a été créé les deux, et donc c'est une question d'oscillation entre les deux. Et donc pour saint Augustin, qui était manichéen au début, donc il en est ressorti, le mal n'est pas inscrit dans l'être, donc il y a bien cette idée de c'est le bien qui est inscrit dans l'être, c'est pas le mal. Et contre les pélagiens, qui eux croient que il suffit de vouloir le bien et qu'on va y arriver à la force du poignet, en fait, saint Augustin dit non, l'homme peut vouloir le bien, mais il n'est pas en état de le faire, il a une inclination au mal. Et pourtant, Dieu a créé l'homme libre. Il a été écarté de cette liberté des enfants de Dieu par la faute originelle. Et toute la vie de l'homme est lutte contre les entraves du mal, contre l'esclavage du péché, pour retrouver cette liberté qu'il ne peut trouver qu'en Dieu, la vraie liberté de choisir Dieu. Alors du coup, avec ces passages un peu explicatifs sur des dérives, on va dire, donc on arrive à Anselme de Canterbury qui, lui, pose la liberté orientée, donc une liberté de qualité, qui dit qu'en fait, la liberté, c'est pas de pouvoir faire le bien et le mal, c'est pas de choisir entre deux choses qui seraient équilibrées, puisque finalement, Dieu qui est souverainement libre, et ça, tout le monde est d'accord là-dessus, il ne peut pas faire le mal. Donc c'est pas une question de pouvoir faire les deux. En fait, il ne s'agit pas de ça. Donc le bien et le mal ne sont pas de même nature. Le mal est un manque, une absence de vouloir le bien. Et donc l'homme, l'ange et Dieu sont libres. Alors pour les deux premiers, on sait que cette liberté s'exerce dans un climat où la volonté a du mal à se fixer. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est pécamineuse, enfin qu'elle peut tomber dans le péché. Mais donc la liberté ne se définit pas par le choix entre deux possibilités égales. car l'une est folie et l'autre destruction, et une folie est destruction et l'autre seule est conforme à notre vocation. La liberté, c'est de choisir de faire le bien, de consentir à l'amour et de s'y tenir. Donc en fait, on a une vision de la liberté qui est quand même très libre arbitre, de choisir entre deux choses, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est encore toujours relativisme. Et du coup, bah, c'est juste une question de pouvoir avoir le maximum de possibilités. En fait, c'est pas ça du tout la liberté. La liberté, c'est de choisir ce qui est bon pour soi et pour le monde, et de s'y tenir et d'avancer dans cette direction. Et c'est un cheminement, c'est-à-dire que c'est pas juste un instant T. C'est pas toutes les minutes où on pose des choix de liberté, en fait. Ça se construit dans le temps. Voilà. Parce qu'on est en devenir, on est inscrit dans le temps et l'espace. Donc, on a une liberté de choix, en fait, qui suppose plusieurs possibilités non fixées d'avance. Ça existe quand même, hein. Je ne nie pas qu'il y a des choix, voilà. Mais la vraie liberté, c'est la liberté de qualité qui résulte d'une décision prise dans le sens du bien, décision qu'elle en reste fidèle et qui permet de porter du fruit, parce que c'est dans le temps qu'elle porte du fruit. Et donc, pour Dieu, quand on dit qu'il est libre, c'est pas qu'il ne peut pas faire le mal, comme si une porte lui était fermée, c'est qu'il ne le veut pas, qu'elle n'a même pas de sens pour lui. Et donc, c'est juste que il choisit ce qui est bien, point. Et nous, comme on a la notion de temps, ben, on a aussi ce chemin spirituel. Voilà. Et ça a été vrai pour Adam, comme pour Jésus. Soit les tentations, quand on voit le Gethsémani ou à la Passion, ben, voilà, ça se déroule dans le temps avec des choix qui ne sont pas... Gethsémani, en fait, c'est intéressant, c'est pas exactement un choix entre je vais pas faire la mission et je vais faire la mission. C'est pas exact, je vais boire la coupe, je vais pas boire la coupe. En fait, ça se pose pas exactement comme ça. C'est plutôt de cheminer en disant il faut que je veuille le bien et je veux le bien, mais est-ce que j'aurai la force de tenir, est-ce que voilà. Et donc, c'est la question, elle est plutôt posée comme ça que en train de se dire je prends la coupe ou je la prends pas, puisque depuis son incarnation, en fait, on voit bien qu'il chemine vers ça, donc il est déjà dans cette route là. Donc, il ne va pas tout d'un coup renier 30 ans de sa vie. Donc, il y a cette idée de cheminement. Et finalement, la vraie liberté, elle est au bout. Il y a l'exemple que prend le Père Giton, qui je trouve assez parlant. Un musicien, en fait, qui a choisi d'apprendre un instrument. D'abord, du coup, il apprend l'instrument. Il ne va pas apprendre tous les instruments parce que sinon, il ne va jamais y arriver à atteindre un certain niveau. Et en fait, c'est que quand il aura fait l'apprentissage et donc pratiqué, cheminé et parfois douloureusement, parce que c'est pas toujours simple d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, qui va pouvoir avoir une telle maîtrise de l'instrument et une telle capacité d'être connecté avec l'instrument, qui va en jouer très librement et qui va pouvoir faire des interprétations magnifiques. Et donc il y a cette idée d'apprentissage, je trouve que c'est assez juste comme façon de montrer la liberté. Alors la troisième partie, c'était... je suis 32 minutes, donc ça va, je suis encore dans les temps. Alors, c'était l'idée de... Il ne s'agit pas juste l'agir moral. On pourrait se dire c'est juste... faut faire le bien parce que c'est quand même mieux et qu'on sera récompensé ou ça permet quand même de vivre mieux en société, etc. Non, en fait, c'est... Dieu, il n'a jamais des petites idées aussi petites sur nous. Et donc, il veut des choses grandes pour nous. Et donc, ce qu'il veut, c'est le bonheur. Voilà. Donc, le but de l'agir moral, c'est... Et le but de notre liberté, c'est le bonheur. Donc, voilà, ce n'est pas juste de bien faire. C'est vraiment le bonheur, et au sens le plus large du terme. On verra que Saint-Augustin emploie le mot « délectation », très joli mot qui permet de bien montrer la dilatation. Alors, ce que nous montre la révélation, c'est qu'elle nous propose deux voies. Donc, il y a beaucoup de thèmes dans le Deutéronome, j'ai mis plusieurs passages, où il y a ces deux voies, voilà, fidélité ou infidélité. Et l'un est chemin de vie et de bonheur, et l'autre est de mort et de malheur. Voilà. Et on a la connexion entre la vie et le bonheur. On a les commandements qui apportent le bonheur et la vie. C'est intéressant, celui sur « Honore ton père et ta mère, comme te l'a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre. » Donc, il y a bien les deux, vie et bonheur, qui sont complémentaires de ce commandement. Et puis, toute la sagesse, qui en fait est l'art de chercher le bonheur. Donc, elle est aussi, par définition, elle nous éclaire sur comment est ce chemin. Et puis le Christ, il est aussi complètement dans cette dynamique, et encore plus grande, puisque lui, il propose la guérison et la vie, donc il est encore plus vers le bonheur. Et il dit pas dans les béatitudes, c'est intéressant, il dit pas il faut ou tu dois, voilà, on n'est pas sur un commandement moral juste dans le genre prescription, très rapproché de Kant ou du nominalisme, mais heureux, voilà, béatitude c'est heureux. Donc en fait... et pourtant, derrière, c'est des il faut, c'est tu dois. Voilà. Mais en fait, c'est d'abord la question, c'est une question de bonheur. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le vrai, la vraie manifestation et qui fera qu'il y a les fruits à la sortie. Donc le bonheur de l'homme, c'est de coïncider avec l'intention de Dieu sur lui et d'avoir ainsi la vie véritable. J'aime bien la citation de Jérémie sur « Mon peuple a commis un double méfait, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Voilà, donc il ne faut pas qu'on soit des citernes fissurées. Il faut retenir l'eau vive, peut-être même pour la distribuer autour de nous. On vient de faire l'évangile de la Samaritaine hier, donc voilà. Donc puisons aux sources d'eau vive, gardons l'eau vive et distribuons l'eau vive. Voilà. Alors, pour faire ça, si je reprends la phrase de Jésus, « Veux-tu guérir ?» Ben, il faut nous libérer. Parce qu'on voit bien que notre liberté, on l'a vu dans toute la première partie, c'est pas si simple que ça. On a encore beaucoup de discernement. On a encore des tas de choses qui nous disent ce qu'il faut faire et comment cheminer vers Dieu. Mais on a besoin de plus. Et c'est vraiment le salut de Jésus qui va nous libérer du mensonge et nous libérer notre liberté quelque part. Voilà, et c'est la grâce. Donc dans les sacrements, en fait, il commence à fortifier notre volonté pour le combat. Et on le voit dès les scrutins dans la préparation au baptême, puisqu'il y a, cette idée de renforcer la volonté. On prie pour que et pour ne pas faiblir face au mal et face aux démons, et pour que les catéchumènes renforcent leur volonté et leur conviction de cheminer vers le baptême et vers Dieu. Donc on est bien dans cette idée de fortifier la volonté. C'est la grâce qui a ce nom de cette action en profondeur de Dieu dans le cœur de l'homme, qui le conforme peu à peu à Dieu et le rend apte par une démarche de plus en plus filiale. Donc il y a cette notion de filiale, d'être obéissant et d'être fils, à se laisser conduire par l'esprit et à poser des actes dans le sens de la volonté divine. La grâce n'est pas une qualification extérieure qui lui assurerait le salut. Donc on n'est pas sur, comme Luther, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, où finalement, la grâce, elle m'est donnée, donc j'ai plus qu'à m'abandonner et puis ça va le faire. Non. Elle n'est pas une nouvelle contrainte, genre qui nous conduit vers quelque chose, comme un peu Kant avec son « tu dois », son impératif catégorique. Et c'est aussi les jansénistes qui sont comme ça. Elle n'est pas non plus un coup de pouce. C'est pas juste « t'es un peu faible, alors hop, on te renforce ». Et surtout, elle ne se substitue pas à notre liberté, mais elle lui permet de s'exercer complètement. Donc la providence n'instrumentalise pas les hommes, ce que nous a dit Père Giton hier à la retraite, donc j'ai repris la phrase que je trouve très juste. Et donc la notion de liberté, c'est qu'elle ne va pas à l'encontre, je vous ai parlé tout à l'heure de la conscience, qu'il fallait respecter sa propre conscience, il y a quelque chose de ça. Donc, et pour le coup, Kant a raison quand il dit on ne doit pas prendre l'homme comme un moyen, mais comme une fin toujours. Donc la providence, elle va effectivement pouvoir sortir un bien de mal, mais elle ne va pas utiliser le mal. Il nous le disait à propos de Judas, jusqu'au bout, Judas aurait pu ne pas livrer le Christ et le salut se serait opéré d'une autre façon, parce que Dieu, il est inventif là-dessus, il n'y a pas de sujet, il garde son cap. Mais voilà, il ne va pas utiliser en disant, c'est Judas, c'est pas de chance, ça tombe sur toi. Non, c'est pas exactement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que ça, ce serait pas du tout respectueux de notre liberté. Et manifestement, il veut que nous soyons libres. Donc la grâce nous est donnée en abondance, non pas pour agir à notre place, mais pour faire que nous fassions. Et donc elle est la racine de nos actes libres, parce qu'en fait elle réveille en nous le dynamisme que le péché avait ankylosé. Elle nous remet dans le bon chemin quelque part. Elle nous remet sur le bon discernement, et puis sur la capacité aussi à lutter contre le mal et à notre penchant naturel pour aller vers le mal. Et on voit bien que les commandements que Jésus nous donne à ses disciples, il montre à la fois que pour lui, l'homme est libre et responsable de ses actes. Et donc, il lui donne des commandements qu'il doit faire. Et donc, il y a bien une mission et quelque chose de ce que l'homme doit faire. Et puis, en même temps, il y a la prière qu'il leur apprend. Donne-nous le pain de ce jour, que ta volonté soit faite. Et donc, il y a les deux ensemble. Et la grâce, c'est cette aide pour permettre de l'accomplir. Donc elle ne se substitue pas à notre liberté, mais quelque part, elle la remet dans de bons dispositifs. Un peu un terreau, comme si on arrose, on met un peu d'engrais, on met des choses. Donc ça n'a pas changé la graine, et c'est elle qui pousse. Mais ça lui facilite la vie et ça lui permet de pousser dans la bonne direction. Saint Augustin tient que le bien pour lequel l'homme a été fait éclaire son intelligence et met en mouvement sa volonté quand il s'ouvre à Dieu. et il instruit des vérités morales. C'est ainsi que c'est pour ça qu'il parle des, voilà, des eaux qui sourdent du paradis terrestre. Et on l'a de nouveau avec le temple dans l'Apocalypse, avec l'eau qui coule du temple et qui va irriguer jusque la mer morte. Et donc il y a quelque chose de, voilà, une irrigation. Évidemment, mon thème de la plante n'est pas si faux que ça. Alors, saint Augustin nous dit aussi, il a beaucoup écrit sur la grâce et libre arbitre, sur traité du libre arbitre. Enfin, il a plusieurs références là-dessus. Et donc, il nous fait un commentaire de saint Paul en nous disant, c'est également ce que dit l'apôtre. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de la liberté une occasion pour la chair, mais par la charité, rendez-vous esclaves les uns des autres. Que le chrétien ne dise donc pas, je suis libre, j'ai été appelé à la liberté. J'étais esclave, mais j'ai été racheté, et par ce rachat, j'ai été rendu libre. Que je fasse ce que je veux, que personne ne s'oppose à ma volonté si je suis libre. Car si par cette volonté, tu commets le péché, tu es l'esclave du péché. N'abuse donc pas de la liberté pour pécher librement, mais use-en pour ne pas pécher. Ta volonté, en effet, sera libre si elle est religieuse. Religieuse au sens va vers Dieu. Donc on est toujours dans la même idée. Voilà, on n'est pas en train de choisir, hein, bien la liberté, c'est la... Le rachat de Jésus qui nous a redonné la liberté, ce n'est pas pour choisir entre deux choses et du coup avoir des possibilités qu'on n'aurait pas, on n'aurait plus. Pas du tout, c'est nous conduire vers le bien et nous aider à aller vers le vin. Donc ta volonté, en effet, sera libre si elle est religieuse. Voilà, et c'est comme ça qu'il dit « aime et fais ce que tu veux ». Donc ce n'est pas dans le sens « je suis libre, je fais ce que je veux » au sens de ce qu'il a dit juste au-dessus, où là on serait esclave du péché. Mais c'est dans le sens « aime, si tu aimes ». Du coup, tu le feras bien parce que tu aimes Dieu, tu aimes les autres. Et donc, du coup, tu es dans la volonté de Dieu. Et donc, du coup, dans ce cas-là, fais ce que tu veux. Donc, la liberté chrétienne pour le disciple éclairé par Dieu intérieurement par sa conscience et extérieurement par ce qu'il sait de la loi divine. Et quelque part au-delà de... Ça, c'est une citation de saint Thomas. Tiens, c'est bizarre, cette partie. Normalement, c'était une citation de saint Thomas, ça. Et donc parce qu'il sait de la loi divine, mais aussi tout ce qui est donné par les sacrements, tout est pur, tout est permis, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il peut faire n'importe quoi, tout n'est pas opportun, il faut faire preuve de discernement, que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voilà, ça c'est notre programme. Et ce programme-là, eh bien, il conduit à la délectation du bien, qui est le mot que saint Augustin emploie. Lui parle beaucoup de joie intérieure et joie au sens très, très... enfin, une vraie joie, quoi. Quand on fait la volonté de Dieu. Donc, en fait, Dieu veut notre consentement. On l'a vu hein, dans les béatitudes, heureux. Il agit non par contrainte, mais par attraction morale. Et on voit des phrases de psaume. Et la vie heureuse, la voilà, éprouvée de la joie pour toi, de toi, à cause de toi. Ça, c'est la phrase de saint Augustin. C'est ce que nous disent les psaumes. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Alors saint Thomas va un cran plus loin dans le thème de l'illumination intérieure en distinguant une lumière de nature. Donc ça, c'est ce que par la raison on peut découvrir des grandes lignes de la loi naturelle, qui est donc le reflet de la loi divine. Je confère trois paragraphes avant. Et une lumière de grâce qui est l'œuvre du Saint-Esprit et constitue la loi nouvelle. Donc l'homme que saint Thomas cherche à décrire, c'est la créature spirituelle ouverte sur une fin qui dépasse et transcende ses possibilités, comme lorsqu'on est dilaté par la lumière. Donc c'est cette idée d'illumination au sens où de l'intérieur et aussi parce qu'on reçoit, ben, on a une forme de dilatation comme la lumière qui du coup rend beaucoup plus les choses plus belles et transcende les possibilités. Saint Thomas introduit dans la nature humaine elle-même l'empreinte de Dieu, de la raison et de la grâce. Il introduit dans sa conception théologique une dramatisation d'un monde sorti de Dieu, une sorte de mouvement descendant, comme si tout le monde de Dieu venait à nous pour nous rencontrer. Tout l'univers émane de Dieu créateur et tire son être et sa signification de la sagesse créatrice. Et puis d'un autre côté, dans un mouvement ascendant, l'univers et les êtres sont appelés à remonter vers leur hauteur pour le louer et lui rendre gloire. Et en fait, ce double mouvement décrit la type de relation qui existe entre Dieu et les êtres et ce qu'il veut comme type de relation. Donc une relation de causalité pour signifier que on est dépendant et on est des créatures, et donc on vient de Dieu et on a tout reçu de Dieu. Et une relation de finalité pour désigner le retour. Et le fait qu'on doit revenir à Dieu et que le Christ a récapitulé en lui, quelque part dans l'Ascension, c'est, il nous monte avec lui dans la Trinité. Donc la vie morale de l'homme est située sur ce mouvement ascendant où Dieu appelle l'homme à participer à la vie divine. Et ça commence dès maintenant, en fait. C'est pour ça que l'agir moral, c'est dès maintenant qu'on se construit, puisque nous, on est en chemin et que c'est ce chemin qui va aussi déterminer notre trajectoire de la vie éternelle. Donc une double origine, une source interne à la nature de l'homme, formée par la raison et la volonté libre, et une source extérieure, la grâce. Alors extérieure au sens où la grâce, on la reçoit, mais évidemment après elle devient intérieure, puisque c'est le Saint-Esprit en nous. Voilà, bon après ça c'est moins important. La liberté des enfants de Dieu, acquiescement et initiative. Donc finalement, si on doit, un peu pour finir cette vision de l'agir moral et de la liberté, en fait, on voit qu'il y a une double chose qui correspond à ce niveau de liberté et à la grâce et tous les moyens que Dieu nous donne pour pouvoir restaurer notre liberté. Et donc, il y a quelque chose autour de l'assentiment et quelque chose autour de l'initiative. Donc, la liberté donnée pour l'assentiment. Donc, en fait, c'est à la fois c'est la bonne manière d'être libre, c'est de dire oui, en fait, à la volonté de Dieu. Donc, le don volontaire de tout notre être n'est plus immédiatement disponible à l'homme pécheur. Il doit le devenir et douloureusement. Tout le chemin que Jésus nous montre est le réapprentissage de notre liberté. La vérité vous rendra libre. Donc, ça, c'est dans Saint Jean. Et donc, plus on se rapproche de la vérité, plus on se rapproche de Dieu, plus on sera libre. Et ce réapprentissage passe par l'expérience de l'obéissance. Non pas dans une thématique d'alignation de notre vouloir dans celui d'un autre, mais de libre oblation de soi pour que la vie l'emporte. Et on peut reméditer sur Gethsémani, qui est un très bon texte pour méditer sur la liberté. Voilà, c'est exactement ce que fait Jésus, une libre oblation de lui-même pour boire la coupe et nous sauver à son Père. Acquiescement donc de notre conscience qui n'est pas créatrice des valeurs et des normes, donc c'est pas notre conscience qui règle les choses, hein. elles sont inscrites et elles viennent de Dieu, mais qui doit devenir l'instance filiale qui accueille le bien qui lui est proposé, reconnaît la voie du bon pasteur et décide de son propre mouvement de suivre ce qui lui est demandé. C'est ça dont parle Saint Paul quand il dit la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Voilà. Donc c'est en étant enfant et en disant oui à Dieu qu'on peut avancer dans ce chemin de liberté et de vérité. Et qui est forcément lié à l'amour, puisqu'on ne peut pas avoir une relation qui est fruit de la liberté ne peut être que inscrite dans l'amour et pas dans la contrainte. Voilà. Et donc, si le Fils nous délivre, on sera vraiment libre, parce que lui, il est vraiment Dieu, et puis qu'il est un homme qui n'a pas connu le péché. Notre espérance, frère, c'est que nous soyons délivrés par celui qui est libre et qu'en nous délivrant, il nous rende esclaves. Alors, c'est drôle parce qu'on reparle d'esclavage, mais c'est l'esclave de la liberté, de la charité, pardon. Et donc, non pas de la convoitise et du péché, mais de la charité. Voilà. C'est un esclavage librement choisi, une libre ovation de soi-même pour les autres. Et donc là, on peut méditer le personnage de Marie, la personne de Marie, qui reçoit l'annonce de l'ange. Et Dieu lui a pas demandé exactement, pareil, tu veux pas, c'est ça ou c'est ça. Finalement, il lui propose sa volonté, son dessein. Et puis, ce qu'il attendait, c'est juste un acquiescement, c'est un oui, en fait. Finalement, il n'y a pas de non, il y a juste le oui à la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce que Marie a fait à l'annonce de l'ange, et qu'elle a fait tout au long de sa vie et jusqu'au pied de la croix. Voilà, qui permet que, on accueille et on s'approprie le projet divin pour pouvoir y collaborer. Et c'est là qu'on rejoint la deuxième dimension, qui est l'initiative. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juste de recevoir et puis bah voilà, ça ne nous détermine pas, mais on a bien une action à faire. Et donc, on parle bien d'agir moral et donc de bien utiliser notre liberté pour agir et prendre des initiatives dans le bon sens. Et donc, il attend notre collaboration active. Et c'est ce que Marie a fait. Parce qu'elle a posé une question, donc ça montre bien qu'elle elle prend pas juste le truc et tu le demandes, donc je dis oui et voilà, c'est tout. Elle fait preuve de raison, elle pose une question pour mieux comprendre, pour discerner elle aussi les intentions du Seigneur et pour mieux pouvoir que son oui soit le plus oui possible et oui dans le temps. Et c'est un peu la façon dont Dieu fonctionne avec nous. Il l'a fait avec Adam, mais il l'a fait aussi avec Moïse, où il lui donne des bribes, mais il a pas tout. Pour nous donner un aperçu de sa volonté, et puis attendre notre oui. Et quand il y a un premier oui, il y a un cheminement qui se passe, et du coup, il y a un champ des possibles et qui conduit à d'autres oui, et qui nous amène vers la félicité en Dieu. Voilà. Et au passage, on va faire fructifier nos talents. Donc, pour conclure, Dieu a disposé avec beaucoup d'amour et d'intelligence cette créature appelée à être partenaire de son amour. Donc, il nous veut comme un partenaire. Donc, quelque part, il nous remet un peu à son niveau. Nous n'avons pas un instinct qui nous guiderait nécessairement vers l'accomplissement de nos tâches d'homme. qu'on n'est pas programmé comme les animaux, avec quelque part un instinct qui les conduit à faire ce pour quoi ils sont faits. Non, nous, on a une liberté de parcours qui est à la fois fléchée vers le but que Dieu nous destine, mais en même temps, on n'est pas programmé. Et donc, il va y avoir toute la manière dont nous, on va le jouer, notre instrument de musique. Et cette réponse à son appel, c'est toute notre intelligence et toute notre volonté qu'il faut mettre à disposition. Et malgré l'échec qui découle du péché des origines, Dieu n'a pas désespéré, il n'a pas réévalué à la baisse son premier projet. Il nous veut toujours pour le bonheur. Et il a au contraire confirmé en faisant ce qu'il faut pour réparer notre volonté malade et nous attirer à lui. Et je vous ai mis la phrase de Sainte Thérèse d'Avila, menons habilement notre faiblesse. Je trouve très pertinente sur le sujet.